obligé d'annoncer avec tristesse la mort de Bérénice, qui nous a accompagnés pendant un certain nombre d'années. Voilà. Donc, je voulais vous le dire, parce que pas mal de monde qui la connaissent.
Après cette pensée pour Bérénice, nous allons passer à notre séminaire école. Que sont devenus les névroses de transfert, sous le titre de cette soirée. Alors, on va démarrer dans cet ordre-là, enfin, on va procéder dans cet ordre-là. Donc, c'est Claire Parada qui va parler la première, puis Sol Aparicio, puis Silvias Kofaré et Vanda Dabrowski en dernier. Alors, je voulais juste vous dire, peut-être pour vous mobiliser un peu votre attention avant qu'on démarre, c'est que j'ai lu ces quatre textes, les quatre interventions, et que j'ai eu un petit effet de surprise que je voulais partager avec vous. Et cet effet de surprise, c'est sur cette question, enfin, je ne m'attendais pas spécialement à ça, c'est une question en fait qui, dans les quatre textes, vous allez voir, brasse énormément de concepts importants pour la psychanalyse. Alors ça va du narcissisme, du transfert, du sujet, de la structure, de l'objet, de la fin de cure. Et il y a énormément en fait de thèmes qui sont traités dans ces exposés. Et donc j'espère que vous aurez plaisir à les entendre, comme moi j'ai eu intérêt à les lire. Voilà, donc je donne d'abord la parole à Claire Parada, psychanalyste à Paris, sous le titre « Névrose de transfert versus névrose narcissique ».
Bonsoir. Que sont devenues les névroses de transfert? Voilà la question qui nous est posée ce soir, et que j'introduirai en revenant à Freud. Je me suis demandé d'où venait et à quand remontait ce terme de névrose de transfert chez Freud. En vérité, il est assez tardif, puisque j'ai relevé sa première apparition en 1913 dans un article intitulé « Début du traitement » en note de bas de page. Freud dit l'emprunter à Jung et le réserver exclusivement à la névrose hystérique et à la névrose obsessionnelle. Pour désigner ce qu'il appellera les psychoses, il utilise par opposition le terme de névrose narcissique. Nous verrons pourquoi. Voilà donc établis deux blocs que Freud distingue clairement et qu'il gardera jusqu'à la fin. D'un côté, les névroses de transfert avec l'hystérie et la névrose obsessionnelle, auxquelles il ajoute parfois la névrose phobique comme entité à part entière ou bien comme rattachée à l'hystérie, comme hystérie d'angoisse. Et d'autre part, la paranoïa, la démence précoce et la mélancolie, formant les névroses narcissiques. Juste pour rappel, dans un premier temps, Freud les avait toutes englobées sous le terme de psychonévrose de défense, pour extraire ces pathologies psychiques des théories de la dégénérescence qui étaient très en vogue à l'époque. Et il faisait donc de la défense, du refoulement, de la défense contre une motion pulsionnelle inconciliable, le point nucléaire dans le mécanisme psychique des névroses, je cite. Alors, pourquoi choisir ce terme de névrose de transfert pour les distinguer des névroses narcissiques, comme on le retrouve dans son texte de 1915, Vue d'ensemble des névroses de transfert, sur lequel je me suis beaucoup appuyée pour introduire le thème de ce soir. Est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas de transfert possible dans les névroses narcissiques? Pourtant, on ne peut pas dire les choses tout à fait comme ça. Il est vrai que dans la démence précoce, là je cite Freud, l'état anobjectal primitif de narcissisme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'objet dans la démence précoce, rend particulièrement difficile d'envisager ce que serait une relation transférentielle. Puisque pour Freud, le transfert est une reproduction sur la personne de l'analyste du mode de relation d'objet du sujet. S'il n'y a pas d'objet constitué. En revanche, il n'en est pas de même pour la paranoïa. Il y aurait bien du transfert, puisque dans son article sur le cas du président Schreber, Il nous y déplie les différentes déclinaisons de la relation d'objet qui peuvent découler de la défense contre la tendance homosexuelle, la paranoïa étant une défense contre la tendance homosexuelle. Selon le mode de négation employé contre cette tendance, l'autre aimé peut devenir ou persécuteur, si la négation porte sur le verbe, ou objet d'érotomanie, si elle porte sur l'objet. Bref, pour Freud, le transfert existe bien, mais le risque qu'il devienne négatif et empêche le traitement est toujours présent. Pourtant, on peut dire que ça ne se vérifie pas dans la clinique. Certes, le risque existe, mais ça n'est pas toujours le cas. On peut même ajouter que cela dépend beaucoup, pas entièrement, mais quand même ça dépend beaucoup, de la place que l'analyste occupe, averti de ce risque. On ne peut pas nier que le transfert existe chez les sujets psychotiques du seul fait qu'ils viennent s'adresser à des analystes pour les aider à se débrouiller avec ce qui les fait souffrir. C'est probablement à cette place-là d'accueillir comment ils se débrouillent avec le réel que l'analyste a à se tenir, loin des interprétations sur les supposés désirs inconscients comme avait fait Freud à ses débuts et à ses dépens. Donc, revenons à ma question, pourquoi névrose de transfert ? Outre cette disposition au transfert proprement analytique que démontre le névrosé. Penchons-nous sur la conception de Freud de la constitution de la névrose. L'idée d'un transfert de la libido, au sens d'un transfert de fond, est présente dès le début et concerne toutes les structures cliniques. Freud nous dit que face à une motion pulsionnelle incompatible avec le moi, celle-ci est rejetée et se produit alors un retrait de la libido de la réalité. Dans les névroses de transfert, elle est transférée sur la représentation de choses dans l'inconscient et dans les névroses narcissiques sur le moi. Ce retrait de la libido produit une régression jusqu'à un point de fixation à un stade antérieur de développement. Un stade qui a laissé des marques et qui perdure dans les autres phases. C'est d'ailleurs ce point de fixation qui déterminera le choix de la névrose, selon lui. La névrose qui est donc conçue ici comme un défaut d'accomplissement de la fonction sexuelle. Le plein accomplissement étant la relation d'objet hétérosexuel sous l'égide de la pulsion génitale, unificatrice de toutes les pulsions partielles. Freud situe la différence fondamentale entre névrose de transfert et névrose narcissique au niveau de la relation d'objet. Il l'appuie à plusieurs reprises. Dans la première, le rapport à l'objet est maintenu dans l'inconscient, même s'il est coupé du système préconscient-conscient, alors que dans la deuxième, la libido se replie sur le moi. En effet, là je cite Freud, les névroses narcissiques remontent à des stades qui précèdent la découverte de l'objet, nous dit Freud. À la phase de l'auto-érotisme pour la démence précoce, la phase du choix d'objet narcissique pour la paranoïa et à l'identification narcissique à l'objet pour la mélancolie. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'objet dans la psychose, mais c'est un objet narcissique du côté du même. Un petit autre imaginaire, dirait Lacan, qui ne fait pas fonction d'objet A, cause du désir. Dans les névroses de transfert, le choix d'objet par étayage est déjà constitué. La libido attachée au premier objet d'amour perdu, interdit, a été transférée ailleurs, sur d'autres objets, inaugurant ainsi la série métonymique des objets. Selon Freud, le mécanisme de transfert est donc crucial dans la relation d'objet. C'est bien parce que l'objet est perdu qu'il va causer le transfert libidinal et inaugurer la dialectique du désir. Ce mécanisme étant en place, c'est ce qui va permettre que l'objet reste maintenu dans l'inconscient malgré le refoulement et la régression de la libido. La différence étant que le sujet entretient avec lui un rapport fantasmatique ou symptomatique coupé de la réalité. Pour qu'on puisse parler de transfert proprement dit, le retrait de la libido n'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit déplacée ailleurs, sur un autre objet. C'est comme ça que je m'explique que Freud choisit d'accoler le terme de transfert spécifiquement aux névroses, car il y est l'opérateur principal de la relation d'objet. Alors que dans la psychose, avec son choix d'objet narcissique, on pourrait plutôt parler de projection de l'image du moi. C'est sur ce modèle que Freud construit sa conception du transfert analytique. Le sujet transfère l'amour sur l'analyste, sur le mode de son choix d'objet libidinal. On retrouve chez Lacan cette différence dans le rapport à l'objet, quoique repris autrement. Dans la névrose, ce que le sujet vise dans le partenaire, c'est l'objet A, cette part perdue du fait de son entrée dans le langage et qui le laisse irrémédiablement manquant. Ce à quoi il se heurte, c'est à cet impossible de faire un qu'il met du côté de son impuissance et à l'impossible du rapport sexuel dont il ne veut rien savoir. Alors que le psychotique, cet objet, il l'a dans sa poche, comme dit Lacan. Il a comme partenaire le grand hôte primordial non manquant, tout puissant, ou des petits A imaginaires qui peuvent être ou bien des appuis narcissiques bienvenus, ou au contraire des persécuteurs. On retrouve cette même différence dans le transfert, où il s'agit pour l'analyste de ne pas se tenir à la même place. Autant dans la névrose, l'analyste fait semblant d'objet A, cause du désir, ce qui pousse l'analysant à parler et à cerner le contour de cet objet A et à saisir le désir comme causé par lui et non pas courant après. Autant dans la psychose, l'analyste se tient comme représentant du grand autre du langage pour entrer dans le pacte de la parole, en évitant de venir à la place, occuper la place du grand autre primordial. Ceci ne veut pas dire, on le voit, qu'il n'y a pas de transfert, mais il n'est pas de même nature et ne sert pas aux mêmes fins. Dans la névrose, il sert à interpréter, à réduire la jouissance du sens. Dans la psychose, il sert à limiter la jouissance et aborder le réel par la parole et les signifiants. On peut conclure que la thèse de Freud sur la constitution de la névrose se base sur une conception normative et développementale de la sexualité. Cette dernière doit passer par un certain nombre de stades pour aboutir au dernier, le stade génital, et à une sexualité hétéronormée. La névrose est alors conçue comme une pathologie de la fonction sexuelle, qui aurait subi des accidents dans sa construction, traumatisme réel ou non, fixation, ce qui aurait pour conséquence qu'elle ne parvienne pas à sa pleine et entière maturité et qu'elle régresse à des stades antérieurs, oral, anal. Lacan s'est démarqué de cette idée développementale de la sexualité, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa conception de la névrose. En effet, très tôt dans son enseignement, il revient sur cette idée de stade de développement, selon laquelle il y aurait une progression de la libido, aboutissant à un dernier stade génital où l'objet total serait constitué. La pulsion n'est jamais que partielle, l'objet visé dans l'autre, l'objet A l'est également, dit-il. Dans le séminaire 8, il revisite les stades freudiens qu'il situe clairement dans le champ de la demande et du désir, c'est-à-dire en rapport à l'autre et au langage. Ils ne sont donc pas à prendre dans une visée de maturation naturelle, ajoute-t-il. Chaque stade coexiste avec les autres. La pulsion est réinterprétée au sens d'une langue à une autre, selon la demande orale, anale ou génitale, et va venir laisser des marques de jouissance. De plus, il n'y a qu'une libido, la libido phallique, pas d'autre avec laquelle faire rapport. Donc, s'il y a une norme pour la sexualité, ce n'est pas celle du rapport hétérosexuel, génital, mais bien plutôt celle qui découle du « pas de rapport sexuel pour tous ». L'idée de Lacan est que la névrose est une tentative de solution à cette malédiction sur le sexe. Dans cette perspective, cela relativise la dimension pathologique, clairement posée comme telle par Freud, à propos de la névrose, puisqu'il ne cesse de parler du malade. Ou alors il faudrait reformuler les choses en termes de « tous malades du langage », avec les conséquences que l'on sait sur la sexualité de l'être parlant, son rapport au désir et à la jouissance. Dans le même ordre d'idées, ne pourrait-on pas dire que le dernier enseignement, c'est une question, que le dernier enseignement de Lacan a produit un remaniement similaire quant à la façon d'aborder la psychose. L'introduction du nœud borroméen assouplit cette fracture entre les structures cliniques, névrose, psychose et perversion, ou tout au moins remet en cause cette idée de gradation de gravité entre elles, puisque le nœud, on le fabrique. Il vaut peut-être mieux le fabriquer à quatre ronds, bien sûr, réel, imaginaire, symbolique, et le quatrième qui les lie entre eux, mais le quatrième n'est plus forcément le nom du père. D'autres éléments peuvent venir y faire suppléance. La frontière entre normal et pathologique est ici aussi remise en cause. La psychose ne signant plus forcément la pathologie grave. On peut d'ailleurs rencontrer des sujets psychotiques se débrouillant mieux dans le champ du social que certains névrosés. Bon alors, ceci tant que le nœud tient, bien sûr, parce que la décompensation psychotique reste tout de même plus abrupte et radicale.
Alors peut-être une petite question comme ça, pour Claire, avant de passer la parole à Sol. La question de l'objet dans le transfert pour Freud, avec ce déplacement du libido, est-ce qu'elle préfigure, enfin comment elle préfigure la question de la place de l'analyste en semblant d'objet A chez Lacan ?
Voilà. On va y répondre maintenant, je ne sais pas.